Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Alors voilà, pour cette émission, nous allons parler d'un traité qui vient d'entrer en application. C'est le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ensuite, on parlera d'Alexei Navalny, l'opposant russe. On parlera de notre campagne « Silence en armes ». Et puis, de 6 choses à savoir sur nos droits liés au vaccin anti-Covid. Et puis, on terminera sur le bilan des 10 jours pour signer qu'on a fait en décembre, surtout dans les établissements scolaires de Digne. Voilà, donc je dédie cette émission à toutes les victimes d'inceste. Ces petits garçons, ces petites filles qui, dans leur enfance, ont été agressés par des personnes ayant autorité, des proches, et qui ont souffert, qui, des fois, très, très longtemps après, à cause de l'amnésie nécessaire pour survivre, ont eu une vie détruite, très abîmée, et ont eu du mal à se reconstruire. Et là, on sent en ce moment qu'il y a un changement, qu'enfin le déni en France, particulièrement en France, est en train de se briser grâce à un livre, et Familia Grande, et puis aussi qui entraîne des révélations de personnes qui ont 40, 50, 60 ans et qui traînent cette souffrance, cette blessure, qui n'ont jamais été considérées comme victimes. Hein. Voilà, donc sur Digne, nous, en tant qu'Amnesty, on a été interpellés par des mamans, justement, qui étaient désespérées, parce que la justice ne voulait pas croire les enfants, le témoignage. Le groupe de Digne, on avait fait une résolution à Amnesty France, lors d'une assemblée générale. Cette résolution était passée, justement, sur les enfants, les violences faites dans le cercle familial. Mais Amnesty est un mouvement international et en Assemblée mondiale, le sujet n'est pas ressorti dans les autres pays et du coup, on n'a pas, hélas, traité de ce problème. Mais voilà, donc on est ravis que enfin le déni semble se briser et parce que en fait, c'est un peu épidémique parce que ça, si on traite jamais le problème, si on refuse de voir ces violences, elles se perpétuent parce que les personnes qui ont été victimes, certaines ne voient pas autre chose que cette façon de se conduire. Et donc, c'est un système qui se reproduit. Et pour vraiment faire diminuer ce nombre effarant d'enfants victimes, il faut les reconnaître comme victimes. Il faut que la justice passe, il faut qu'il y ait des condamnations. Il faut supprimer il faut l'interdiction de relations sexuelles. Là, le Sénat a voté 13 ans pour qu'il y ait au-dessus de 13 ans, il y aurait possibilité de consentement. Vous rendez compte à 13, 14 ans avec un adulte qui a autorité, c'est pas possible. C'est voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire et voilà. Donc cette émission, elle est dédiée à toutes ces victimes. Voilà, alors on va parler du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Alors Amnesty a fait une chronique pour une adhésion de la France à ce traité. Désormais, depuis le 22 janvier, donc c'est tout récent, 22 janvier 2021, c'est une date historique, un traité multilatéral, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, adopté par les deux tiers des pays membres de l'ONU en 2017, entre en vigueur et rend les armes nucléaires illégales, que ce soit leur possession, leur fabrication ou la menace de leur utilisation, c'est-à-dire la stratégie de dissuasion nucléaire. Ce traité comble un vide juridique et complète l'interdiction des autres armes de destruction massive, biologiques et chimiques, ainsi que certaines armes classiques condamnées pour leur impact sur les civils. On pense notamment aux bombes à sous-munitions. Il aura des effets même sur les pays qui le rejettent. La France, qui s'est toujours voulu le pays porteur des valeurs de respect du droit international, ne doit pas tourner le dos à ce processus de démocratie internationale et doit adhérer au TIAN. C'est le nom du traité. Cet accord est le résultat de dizaines d'années d'efforts persévérants de la société civile à travers des organisations dont de nombreuses ont été regroupées au sein de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Lauréate du prix Nobel de la paix en 2017 et le comité international de la Croix-Rouge en convergence avec plusieurs États dont le Saint-Siège, l'Afrique du Sud qui est une ancienne puissance nucléaire et la Nouvelle-Zélande. Les organisations, les gouvernements, les églises, les syndicats qui soutiennent l'interdiction des armes nucléaires n'ont pas agi seulement par frustration à l'égard des détenteurs d'arsenaux qui n'ont pas tenu leur engagement, pris notamment dans le cadre du traité sur la non-prolifération nucléaire. Ce traité concrétise le rejet d'un système verrouillé par le veto de ces quelques pays et d'un système de sécurité fondé sur la capacité de perpétrer des massacres de masse civile. Les puissances nucléaires, dont la France, ont beau déclarer que le traité ne leur imposera aucune obligation, elles ne pourront plus désormais affirmer que leurs armes nucléaires sont légitimes. Elles se comportent comme si le TNP leur accordait indéfiniment un droit de possession et de recours à l'arme nucléaire, en contradiction avec l'esprit et le texte de ce traité. Ainsi tentent-elles de justifier l'injustifiable, à savoir les programmes de modernisation et de renouvellement de leur arsenal nucléaire, étalés encore sur plusieurs décennies à coups de centaines de milliards d'euros. Pourtant, l'article 6 du traité de non-prolifération leur fait bien, depuis un demi-siècle, obligation de négocier en vue de la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et d'un traité de désarmement général et complet. Les autorités françaises, comme celles des autres puissances nucléaires, affirme de manière contradictoire que la dissuasion nucléaire exclut tout recours à l'arme nucléaire, alors même qu'elles incluent dans leur doctrine des scénarios d'emploi de l'arme atomique. Ça s'appelle le dernier avertissement. Et investissent dans de nouveaux types d'armes nucléaires plus utilisables qui abaissent dangereusement le seuil de la guerre nucléaire. Les puissances nucléaires affirment que la seule solution réaliste vers le désarmement consiste à cheminer étape par étape et fixe comme objectif prioritaire la non-prolifération. En fait, toutes les mesures en discussion sont actuellement bloquées par ces mêmes puissances. De plus, en continuant d'affirmer que l'arme nucléaire est la garantie ultime de leur sécurité, elles la rendent encore plus attrayante et elles favorisent la prolifération qu'elles prétendent combattre. Le président de la République doit sortir de trois contradictions dans lesquelles il s'est enfermé. Il a fustigé le désarmement unilatéral tout en s'enorgueillissant, des mesures de réduction que la France avait prises unilatéralement depuis la fin de la guerre froide. Il prône le multilatéralisme tout en rejetant les aspirations d'une majorité d'États, dont les membres de l'Union européenne. Il entend inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution alors qu'une guerre nucléaire, même limitée, serait un crime d'écocide compte tenu de ses conséquences catastrophiques sur la planète, ses habitants et les générations futures, ainsi que l'ont démontré plus de 2000 essais nucléaires dont les effets sanitaires et environnementaux se font aujourd'hui encore ressentir sur les populations concernées. Il est donc grand temps, trois quarts de siècle après l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki, que la France se joigne au mouvement mondial pour l'élimination progressive et multilatérale des armes nucléaires en adhérant au traité international sur les armes nucléaires. La France contribuera ainsi, comme elle a déjà fait pour les autres armes de destruction massive, à l'élimination de l'arme la plus destructrice inventée par l'être humain. Voilà, donc c'est un grand pas là, qui vient d'être franchi ce 22 janvier. On va écouter maintenant HK dans sa chanson « Petite Terre ». Thank you.
grandi. Petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, tu as grandi dans ce gigantesque univers, à l'endroit précis où le gris se colore de bleu et de vert. Que fais-tu là, c'est incroyable, petite fleur en plein désert. Et nous voilà dans cette fable, enfants de la terre nourricière. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, petite toux, petite fièvre de rien du tout. C'est ce que les humains te disent pour s'affranchir de leurs bêtises. Nous avons brisé l'équilibre quand nous nous sommes accaparés tout ce qui respire et qui vibre sans jamais penser à l'après. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Kaya, 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 kaya. Se pourrait-il que l'on se souvienne, tu es l'horizon et le ciel, l'eau que l'on boit à la fontaine, notre sol et notre sel. Pour toi je ne m'en fais pas tant, tu en verras bien des printemps, car il pleuvra comme il a plu quand les humains auront vécu. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Kaya, 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 kaya. Je tourne, 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 tourne. Dans l'univers immense, je danse, je danse. Petite terre, je tourne, 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 tourne. Dans l'univers immense, tu danses, tu danses. Petite terre, je tourne, tourne. Petite terre, petite terre, petite terre.
Voilà, belle chanson de HK sur son dernier CD. Voilà, on va parler maintenant d'Alexei Navalny. Hein. Vous en avez tous entendu parler, hein, cet opposant russe qui, rentrant dans son pays, a été arrêté à la descente de son avion. Donc Alexei Navalny, c'est un avocat moscovite et un militant politique. En 2011, il a fondé la Fondation Anticorruption, qui mène des enquêtes et publie des rapports documentant la corruption parmi les hauts fonctionnaires russes et les hommes politiques et hommes d'affaires de premier plan. Navalny ainsi que de nombreux employés associés de la FBK ont subi des représailles pour leur travail. Il a été arrêté à plusieurs reprises, y compris pour avoir appelé ou participé à des manifestations pacifiques. Le 20 août 2020, Alexei tombe malade gravement à son retour d'une tournée électorale en Sibérie. Il a failli mourir empoisonné. Sa famille a insisté pour le transférer à Berlin pour qu'il puisse être soigné. Il a été placé en coma artificiel pendant près d'un mois. Des experts indépendants en Allemagne et dans plusieurs autres pays ont conclu un empoisonnement par l'agent neurotoxique Novichok. Un poison qui a été mis au point en secret par les soviétiques dans les années 1970 et interdit depuis. Après 5 mois de convalescence à Berlin, il a décidé de revenir en Russie. À son arrivée à l'aéroport de Moscou le 17 janvier 2021, il a été immédiatement arrêté. Il lui est reproché de manière absurde de ne pas avoir respecté ses conditions de probation liées à une condamnation passée que la Cour européenne des droits de l'homme a elle-même jugée politiquement motivée. Alexei est un prisonnier d'opinion. Il a besoin de votre soutien. Alors, vous pouvez agir pour sa libération par 4 actions simples en allant sur le site amnesty.fr. Vous verrez son cas. Et vous pouvez envoyer un mail à l'ambassade de Russie en France. Si vous êtes sur Twitter, vous pouvez interpeller Vladimir Poutine. Vous pouvez agir sur Instagram. Et vous pouvez envoyer un courrier à Vladimir Poutine, avec copie, bien sûr, à l'ambassade de Russie en France. Voilà des actions simples que tous les membres d'Amnesty font et que tous les sympathisants d'Amnesty peuvent faire aussi en allant sur le site amnesty.fr. On va maintenant écouter une chanson de Maurice Bénin qui est décédé il y a très peu de temps. Et on chantera Après ma mort. Voilà une chanson prédestinée. Maurice Bénin.
Je chanterai après ma mort, pour faire goûter à d'autres vies ce fruit pulpeux qui m'éclabousse dans ma vie d'aujourd'hui. Je chanterai après ma mort, pour rendre le présent éternel, prouver que la mer fut belle malgré la houle, la tempête. Je chanterai après ma mort des complaintes de silence reprise par mille résonances chez d'autres vivants dans d'autres temps. Je chanterai après ma mort et nul ne pourra me faire taire. Mon chant percera la rumeur d'une fin de siècle éphémère. Je chanterai après ma mort dans les yeux d'un jeune mutant, inconnu calice qui se tend, un descendant de mes enfants, qui de ses antennes subtiles captera l'onde sacrée, propulsée dans sa fin de vivre. Je naîtrai dans chacun de ses baisers. Je chanterai après ma mort, je serai son grand-père cardinal, un grain levé dans l'astral. Celui qui cherchait un fanal, qui a passé la moitié de sa courte vie sur terre, à le prier, à l'annoncer, à tomber buté sur les pierres. Je chanterai après ma mort, pour toi compagne d'infini, pour cette confiance qui nous lie, pour notre livre boréal, pour tous ces amants anonymes éternisé dans notre alliance, humble pionnier en partance, ressuscité dans notre emblème. Je chanterai après ma mort, et je serai loin d'être déçu si la source de mon chant rejoint un ruisseau inconnu qui se jettera dans le fleuve au cours éternel, éthéré, irriguant la plaine des hommes, fertilisant leur destinée. Il chantera après ma mort, il te soufflera par l'esprit quelques paroles d'harmonie
qui font que je chante aussi. Il respire à part des ports, il sera partout, t'accostera jusqu'au rivage de la mort. Où faudra bien que tu me rejoignes, on chantera près de mort dans une chorale d'harmonie. Toutes ces paroles qui nous survivent pour d'autres vivants dans d'autres temps, on chantera.
Voilà, maintenant je vais vous donner la position d'Amnesty par rapport au vaccin anti-Covid. La course au vaccin donc, contre le Covid s'accélère et il semble qu'une lumière brille enfin au bout du tunnel. Cependant, alors que les pays riches accumulent les doses, le potentiel salvateur des vaccins risque d'être mis à mal par les inégalités, le manque de coopération et les intérêts des entreprises. Donc Amnesty a émis 6 points. Premier point, nous avons tous le droit d'être protégés contre la Covid-19. La question de savoir qui doit obtenir les vaccins en premier est complexe. Mais au départ, les approvisionnements seront limités et la priorité doit être accordée aux personnes les plus à risque. Les personnes âgées ou atteintes de problèmes de santé font partie des personnes devant bénéficier d'un accès prioritaire, de même que les professionnels de santé. Il est essentiel de prendre en compte toutes les personnes travaillant dans le secteur de la santé, non seulement les médecins et les infirmiers, mais aussi les ambulanciers, le personnel administratif de ménage, le personnel des maisons de retraite, etc. Les gouvernements doivent également prendre en compte la situation de vulnérabilité de certaines personnes et communautés. On parle notamment des personnes qui vivent dans les camps de réfugiés, dans des conditions insalubres, sont exposées au risque de contracter le Covid. Dans de nombreux pays, les personnes en situation irrégulière n'ont souvent pas accès aux soins de santé. Les communautés autochtones d'Amazonie sont elles aussi confrontées à un risque accru du fait du manque d'accès à l'eau potable, à l'alimentation, aux services de santé et aux tests de dépistage. Il faut donc examiner avec soin les facteurs de risque et d'exposition des populations au moment de décider de la politique de vaccination et de sa mise en œuvre. Deuxième point. L'accès des pays pauvres au vaccin doit être une priorité. Personne ne doit être privé d'un vaccin qui peut lui sauver la vie simplement à cause de son lieu de résidence ou d'un manque de moyens financiers. Pourtant, en décembre 2020, la People Vaccine Alliance, un groupe d'organisations où figurent notamment Amnesty et Oxfam, tirait la sonnette d'alarme. 70 pays pauvres risquent d'être privés de vaccins. À l'opposé, des pays riches ont acheté en moyenne assez de doses pour vacciner 3 fois l'ensemble de leur population avant la fin 2021. En tête du palmarès, le Canada, qui a prévu suffisamment de doses pour vacciner chacun de ses concitoyens 5 fois. Cette approche du moi d'abord, adoptée par certains gouvernements, qui s'accaparent les vaccins, sapent les efforts déployés à l'échelle mondiale pour faire en sorte que chaque individu soit protégé, partout, contre le Covid, un nationalisme vaccinal dangereux qui prive des millions de personnes de leurs droits. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, estime que pour atteindre l'immunité collective, il faudrait vacciner environ 70% de la population mondiale. Réserver les vaccins à quelques privilégiés ne permettra pas d'enrayer la pandémie. Troisième point, la coopération internationale est indispensable. En avril 2020, l'OMS et d'autres acteurs ont mis en place le dispositif COVAX pour faciliter l'accès aux produits de santé liés au Covid-19 dans le monde entier. Le COVAX vise à regrouper la demande mondiale de vaccins. Ce dispositif va permettre la mise en commun des ressources des États pour acheter et distribuer 2 milliards de doses d'ici la fin 2021, de manière juste et équitable. Jusqu'ici, 178 pays s'y sont engagés, à l'exception des États-Unis et de la Russie. Le programme fait face à de nombreuses critiques. D'une part, il permet aux pays riches de solliciter des doses correspondant à 50% de leur population, tandis que les pays à faible revenu ne peuvent en demander que pour 20% de leur population. Les pays les plus riches peuvent aussi s'acquitter d'un tarif plus élevé à l'avance afin de sélectionner les vaccins de leur choix. Se dessine alors un système à deux vitesses susceptible de compromettre l'objectif de COVAX. Quatrième point, il faut faire passer la vie et la santé de tous avant les profits. Les droits de propriété intellectuelle actuels permettent à une entreprise qui fabrique un nouveau médicament d'être la seule à pouvoir le produire pendant une certaine période et de fixer son prix. Mais l'accès à la vaccination contre le Covid-19 ne doit pas être dicté par les intérêts des groupes pharmaceutiques qui ont un rôle essentiel à jouer dans la facilitation de l'accès aux droits à la santé. Les normes internationales relatives aux droits humains sont claires. La santé publique l'emporte sur le droit des entreprises à protéger leur propriété intellectuelle. Les groupes pharmaceutiques doivent respecter les droits humains, ce qui les oblige notamment à rendre leurs vaccins accessibles et abordables pour autant de personnes que possible. Je vous cite le docteur Moga Kamal Yani, qui fait partie de la People's Vaccine Alliance. Le système actuel, dans lequel les sociétés pharmaceutiques se servent des fonds publics pour mener leurs recherches, mais conservent des droits exclusifs et gardent leurs technologies secrètes pour accroître leurs profits, pourrait coûter de nombreuses vies. Afin d'inciter les entreprises à partager leur savoir-faire, l'OMS a mis en place le groupement d'accès aux technologies contre le Covid-19. Ce système permet de partager les données, les brevets relatifs à leur innovation, dans le but de produire plus de vaccins et d'en réduire les coûts. Hélas, à ce jour, pas une seule entreprise pharmaceutique ne l'a fait. Seul Oxford AstraZeneca s'est engagé à vendre le vaccin à prix coûtant pendant la durée de la pandémie. D'autres doivent lui emboîter le pas en utilisant des licences ouvertes et non exclusives afin de veiller à ce que les vaccins anti-Covid parviennent au plus grand nombre. Nous appelons toutes les sociétés pharmaceutiques qui travaillent sur les vaccins contre le Covid-19 à partager ouvertement leurs technologies et leurs propriétés intellectuelles par l'intermédiaire de l'OMS, afin que des milliards de doses supplémentaires puissent être fabriquées et mises à la disposition de toutes les personnes qui en ont besoin. Cinquième point, les vaccins doivent être gratuits dans les centres de vaccination. Le prix ne peut entraver l'accès aux soins de santé, particulièrement pour les personnes marginalisées. Actuellement, près de la moitié de la population mondiale n'est pas en mesure de payer des soins essentiels. Aussi est-il probable que les vaccins contre le Covid ne soient pas accessibles pour la moitié de la planète, sauf s'ils sont gratuits dans les centres de vaccination. On appelle les gouvernements à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le vaccin anti-Covid soit considéré comme un bien public international, gratuit pour la population, distribué équitablement et en fonction des besoins. L'investissement en vaut la peine, il s'agit de sauver des vies. Et du point de vue économique, l'OMS a récemment estimé qu'un investissement de 38 milliards de dollars servant à favoriser l'accès mondial aux vaccins serait rentabilisé en moins de 36 heures, rien qu'avec le rétablissement de la mobilité et du commerce. Et dernier point, enfin, l'information et la sécurité avant tout. Les vaccins doivent respecter les normes les plus récentes de la communauté scientifique en matière de sécurité et d'efficacité. Les gouvernements doivent communiquer clairement sur les avantages de la vaccination, lutter contre la désinformation et faire preuve de transparence à toutes les étapes du développement des vaccins. L'ensemble de la population doit disposer d'informations précises, compréhensibles, facilement accessibles et fiables, afin de garantir le consentement libre et éclairé de chacun. C'est une composante essentielle du droit à la santé et un élément crucial pour assurer une participation maximale à la vaccination. Nous sommes tous et toutes dans le même bateau. La pandémie du Covid est un problème mondial qui exige une solution mondiale. Cette crise sans précédent ne pourra être résolue que par la coopération internationale et le respect des droits humains. Chaque individu a droit à la santé. Il est temps aujourd'hui d'exiger que les vaccins contre le Covid-19 soient disponibles pour toutes et tous, indépendamment du lieu de résidence, de l'identité ou des revenus de chacun. En faisant les bons choix, nous pouvons mettre fin au Covid-19 et façonner un avenir plus juste et plus durable. Voilà donc les 6 points développés par Amnesty International que vous pouvez retrouver sur le site amnesty.fr. Et à la suite de ça, nous allons passer encore HK dans sa chanson « Pour les autres » qui est un hommage à nos soignants qui se dévouent sans compter leur temps.
Elles se battent pour les autres.
Ils se battent pour les autres.
Elles se dévouent pour les autres.
Ils se dévouent pour les autres.
Pour leur honneur et pour le nôtre. Voilà enfin venu le jour où on les applaudit. Aux petits soins, aux grands secours, elles protègent la vie. Soigner les gens, petits ou grands, elles en ont fait le serment. Depuis 10 jours, depuis 1000 ans, depuis l'aube des temps. En pleine nuit, le souffle court sur la corde raide. Elles s'oublient, elles accourent quand quelqu'un crie à l'aide. Et quand elles n'auront plus d'elles, qui viendra les sauver? Qui se dévouera pour elles comme elles l'ont toujours fait? Elles se battent pour les autres.
Ils se battent pour les autres.
Elles se dévouent pour les autres.
Ils se dévouent pour les autres.
Pour leur honneur et pour le nôtre. On les aime, on les admire, mais voilà qu'elles réclament qu'on les aide à nous guérir. Et soudain c'est le drame. Des masques et des gants pour faire face, demande-t-elle la lune. En première ligne et sans défense, au comble d'infortune. Rendons-nous compte, c'est une honte, comme on les expose. On les essore un peu plus fort, jusqu'à l'overdose. Et quand l'une d'elles un jour se plaint, le président réplique: il n'y a plus de moyens pour l'hôpital public. Elles se battent pour les autres.
Ils se battent pour les autres.
Elles se dévouent pour les autres.
Ils se dévouent pour les autres.
Pour leur honneur et pour le nôtre. Un jour d'après, il y aura demain. On y sera, nous sommes prêts. Et de nos propres mains, nous bâtirons ce monde où règne notre aide et le secours. Où celles qui soignent et qui enseignent recevront chaque jour la protection qui leur est due, notre reconnaissance. Que leur vocation ne soit plus la cause de leur souffrance. Au crépuscule d'avril, qu'enfin les choses changent. Que l'on ne mette plus en péril la santé de nos anges. Elles se battent pour les autres.
Ils se battent pour les autres.
Elles se dévouent pour les autres.
Ils se dévouent pour les autres.
Pour leur honneur et pour le nôtre.
Elles se dévouent pour les autres.
Pour leur honneur et pour le nôtre.
Voilà, très bel hommage aux infirmières et infirmiers. Voilà, on va maintenant reparler de notre campagne « Silence en armes » et comment le gouvernement français fait régner l'opacité, le mensonge et l'omerta autour de ses ventes d'armes. On écoute maintenant « Silence en armes ».
Silence. On arme. Par Amnesty International.
Depuis maintenant plus d'un an, Amnesty International fait campagne pour obliger l'État français à faire la lumière sur ses ventes d'armes et obtenir un meilleur contrôle de celles-ci. Dans ce deuxième épisode sur 4 de la série « Silence, on arme », on découvre comment le gouvernement français s'y prend pour se détourner en toute discrétion de ses engagements liés au traité sur le commerce des armes, en cultivant l'opacité et en refusant tout débat démocratique sur le sujet. Rencontre avec Sarah Roussel, chargée de campagne pour Amnesty International en France. Sarah a 34 ans. Elle travaille depuis 2017 pour Amnesty International. Elle est chargée de faire vivre la campagne de mobilisation citoyenne « Silence, on arme ». Nous nous sommes donné rendez-vous au siège d'Amnesty France dans le quartier de Belleville à Paris, au milieu des restaurants vietnamiens, chinois et tunisiens. Mais nous n'étions pas là pour parler gastronomie.
La France est le troisième exportateur d'armes au monde et elle est extrêmement fière de cette industrie. Une industrie qui pourvoit le pays en termes d'emploi, mais qui crée également de la richesse, qui nous assure une véritable indépendance puisque le fait de livrer et de vendre des armes à l'étranger nous permet de nous armer français. Une industrie qui est précieuse aussi en termes de diplomatie. Voilà, ce discours qu'on entend depuis des années dans la bouche des hommes politiques. Pourtant, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les autorités cultivent le secret autour de cette industrie et de ce commerce-là, alors qu'ils en sont extrêmement fiers. On a très peu d'informations sur comment ça marche, sur ce qu'on vend. Et le vrai problème, c'est que cette absence de transparence ne permet pas un véritable contrôle de ce commerce dangereux et meurtrier. Ce qui est important de savoir, c'est que en France, il y a un principe général de prohibition. C'est-à-dire que les ventes d'armes ne sont autorisées que par l'État. Une entreprise ne peut pas vendre des armes à un autre pays ou à une autre entreprise à l'étranger. C'est l'État qui, du coup, autorise les transferts. Il y a un dispositif qui est mis en place, qu'on appelle une commission interministérielle, avec d'un côté le ministère de la Défense, évidemment, de l'autre le ministère de l'Économie, mais aussi le ministère des Affaires étrangères. In fine, c'est le Premier ministre qui décide, qui du coup autorise ou n'autorise pas des transferts d'armes. On a très peu d'informations sur la façon dont les transferts sont autorisés sous couvert de secret défense, donc c'est déjà un problème. C'est-à-dire que voilà, ce processus d'évaluation, de décision, d'autorisation n'est pas connu ni des parlementaires, ni des médias, ni de la société civile. Et on le sait, la France a quand même signé ce fameux traité sur le commerce des armes en 2014, qui pourtant l'oblige à rendre des comptes et qui du coup l'oblige à donner des informations exhaustives, détaillées, actualisées sur et la façon dont elle vend et surtout ce qu'elle vend.
Petit rappel, le traité sur le commerce des armes, c'est l'accord international dont nous parlait Max Wesby dans l'épisode précédent. Grâce à la mobilisation de la société civile, il a été signé par plus de 160 pays et fixe des règles au commerce des armes dans le monde.
Donc on a un rapport annuel au Parlement, qui est une obligation du ministère des Armées, qui est publié chaque année, à une date précise. Et aujourd'hui, dans ce rapport, on a, je dirais, les grandes masses. Voilà. Nous, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il est incomplet. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de à qui on vend précisément. Est-ce que c'est les forces de l'ordre? Est-ce que c'est l'armée? Les quantités, le type de matériel pour certains pays et l'utilisation finale. Donc c'est problématique parce qu'aujourd'hui, quoi qu'en disent les autorités françaises qui ne cessent de répéter qu'elles sont exemplaires, on n'a aucun moyen en fait de s'assurer que ces transferts autorisés par le seul Premier ministre, je répète, soient conformes aux engagements internationaux, c'est-à-dire au traité sur le commerce des armes.
Les combats s'intensifient au Caire pour le contrôle de la place Tahrir. La police a de nouveau chargé ce dimanche les manifestants qui occupent depuis plusieurs jours ce haut lieu de la révolte contre le régime Moubarak. Bilan, 11 morts au moins, dont plusieurs par balles réelles.
Vers 17h, en 2011, une grave crise politique éclate en Égypte. Durant plusieurs années, les manifestations des opposants au régime sont réprimées dans le sang. Ce qui n'a pas empêché la France de vendre ses armes aux différents gouvernements égyptiens.
On sait, grâce à ce fameux rapport annuel au Parlement, que plus de 4 milliards d'euros de matériel de guerre ont été livrés sur la période 2012-2017, ce qui veut dire quand même que la France a livré des armes en énorme quantité à un pays qui traversait la pire crise des droits humains de son histoire. On a écrit au gouvernement français On n'a pas eu de réponse suffisante, on n'a surtout pas eu de réponse transparente, donc on a mené une enquête. Voilà, aujourd'hui, on est obligé de mener des enquêtes pour s'assurer qu'on ne commet pas des violations des droits humains. On a donc prouvé, grâce à cette enquête, que des armes françaises avaient bien été impliquées dans la répression des manifestations. Les preuves étaient bien là, mais la France continuait évidemment de nier. Elle a, par exemple, toujours affirmé, suite à nos questionnements, n'avoir fourni du matériel qu'aux forces armées. Alors qu'en fait, on a bien vu que les forces de police les utilisaient dans les manifestations. Elle a aussi essayé de nier l'existence même de ces livraisons, voire d'expliquer qu'elles avaient été effectuées avant 2011. Mais malheureusement, nous avions les preuves du contraire. Voilà, la question qu'on se pose aujourd'hui, nous, c'est comment la France, qui était parfaitement au courant des violations graves des droits humains dans ce pays-là, a pu continuer à livrer des véhicules blindés à l'Égypte, au mépris de ses engagements internationaux, et surtout, comment ça se fait que le Parlement, la société civile, les médias n'ont pas eu un droit de regard là-dessus.
Après l'Égypte, ce sont les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite qui prennent place au cœur de l'actualité suite aux révélations du média d'investigation Disclose, dont j'ai interviewé l'un des fondateurs par téléphone.
Disclose a reçu une fuite de documents classés confidentiels défense d'un lanceur d'alerte. Et dans cette note d'une dizaine de pages, l'ADRM, donc la direction du renseignement militaire, évoquait la présence des armes françaises, donc des armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, au Yémen. Et donc il y avait même des cartes très très précises, c'est-à-dire avec des cartes qui plaçaient le matériel français qui avait été repéré par la direction du renseignement militaire au Yémen. Et une des cartes les plus intéressantes de ce document, c'était la carte qui plaçait les canons César, donc 48 canons César qui se trouvaient à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, au nord du Yémen. Et le titre même de cette carte-là, c'était « Population concernée par des possibles frappes ». Et donc le chiffre était de 436 000 personnes qui étaient sous la menace des armes françaises. Et donc nous, à partir de ces documents-là, on est allé vérifier, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux images satellites, la réalité de la présence des armes françaises sur le terrain. Et c'est là qu'on a pu repérer que dans des zones de tir des Césars, il y avait eu des morts civiles liées à des tirs d'artillerie, donc il y avait une probabilité très importante que ces civils soient décédés du fait des armes françaises. Bah, la réaction du gouvernement, elle a été de nier, de continuer de nier, de faire comme si ces documents confidentiels qu'avait dévoilé Disclose n'existaient pas. Et donc, ils ont continué à tenir leur ligne, qui est de dire « nous n'avons pas connaissance aujourd'hui de la présence d'armes françaises au Yémen », qui a un peu été modifiée, c'est-à-dire qu'ils disaient après coup « nous n'avons pas connaissance que des armes françaises soient utilisées contre des civils dans la guerre au Yémen ».
C'était Geoffrey Livolsi, journaliste à Disclose. Retour au siège d'Amnesty à Paris avec Sarah Roussel.
Le cas du Yémen est une illustration assez dramatique des manquements de la France à ses engagements internationaux. Je rappelle que l'Arabie Saoudite est le premier client de la France en termes de livraison de matériel de guerre et les Émirats Arabes Unis le troisième, et ce sont tous les deux les principaux belligérants dans le cadre du conflit au Yémen. Un conflit qui dure depuis plus de 5 ans, qui a été déclaré comme la pire crise humanitaire par l'ONU. Donc ça rentre en contradiction totale avec la règle d'or du TCA, qui dit que la France, en tant que partie à ce traité, ne doit pas vendre d'armes à des pays qui pourraient les utiliser pour commettre ou faciliter des crimes de guerre ou des violations de droits humains. Or, aujourd'hui, vu la situation au Yémen, il y a un risque, et rien que sur le seul risque, ces ventes d'armes sont illégales. Donc d'un côté, la France doit absolument arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis parce que voilà, elle se rend complice de crimes de guerre et elle est en contradiction totale avec ses engagements internationaux. Donc il en va aussi de sa crédibilité que de tenir ses engagements. En plus, on sait que d'autres pays l'ont fait, la Norvège, la Finlande, le Danemark et bien d'autres ont déjà annoncé la suspension de leur transfert d'armes. Donc voilà, nous voyons pas pourquoi la France le ferait pas. Ça, c'est une chose. Et d'un autre côté, de façon plus large, si on veut s'assurer aujourd'hui de ne pas vendre des armes à des pays qui pourraient les utiliser pour faciliter ou commettre des crimes de guerre, c'est-à-dire si on veut s'assurer de ne pas contrevenir à cette règle d'or du traité sur le commerce des armes, il faut que le gouvernement rende des comptes. Je rappelle que c'est une transparence qui est exigée par la société puisqu'on a réalisé une étude qui nous révèle que 83% des Français pensent que ce commerce manque de transparence, donc c'est important, mais il faut aussi que d'un autre côté, le Parlement joue son rôle de garant du débat démocratique et de sentinelle et s'assure d'avoir un contrôle effectif et efficace de ces ventes d'armes.
Alors, comment faire en sorte pour que nos élus poussent le gouvernement à respecter les engagements internationaux de la France. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans le nouvel épisode de la série d'Amnesty International, Silence, on arme.
Voilà, donc si vous pouvez voulez suivre cet épisode, il y avait un premier épisode, vous pouvez le retrouver sur le site amnesty.fr et puis vous pouvez suivre les épisodes suivants si le sujet vous intéresse. Voilà, on va maintenant passer une chanson de HK, toujours, Le chant des artisans. C'est sur son dernier CD, Le chant des artisans.
Il n'y a plus de cachette, sors l'ami, sors le doigt ôté de la gâchette. Des deux chemins qui faisaient notre ciment, désormais il n'y en a qu'un, celui des artisans de la paix. Comprends ce mot comme une volonté d'assumer qui l'on est, sans jamais se renier, combattant pacifiste. Assez fou pour croire qu'en ouvrant la main on pourra changer le cours de l'histoire. Sur cette terre qui a vu nos anciens combattre le dictateur, ses armées, ses fusils et ses chiens. Pays de Guernica et Ouchkal et Ria, toi pour qui ce trésor fut chanté un bon milliard de fois. Femmes et hommes réels pour qui le désespoir alimente le feu dévorant de l'espoir. Ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l'avenir, car nos rêves sur cette terre n'ont pas fini de fleurir.
Atela Laguna Tela.
Nous avons marché, artisans de la paix. Nous avons osé, les armes déposées. Notre main est ouverte, ne la refusez pas. La paix vous est offerte, ne l'insultez pas. Artisans. De policiers incrédules et atterrés, c'est de nos propres mains que la hache fut enterrée. Ce choix fort pour nos enfants, sans faillir, nous l'avons fait. Et nous n'avons pas fui quand la question nous fut posée. Notre réponse est sans appel, tout le monde la connaît. Sur nos cœurs et sur nos mains, nous avons inscrit le mot paix. Nous avons pris ce chemin sans l'ombre d'un doute, sans aucune garantie. Nous avons pris la route, nous avons osé. Les armes déposées ne réclament en échange que justice et vérité. Retour à la normalité pour une terre de liberté. Elle est sa langue, son histoire, sa dignité et sa beauté. Tu connais cette foi obstinée qui coule dans nos veines. La lutte n'est pas finie, elle commence à peine. Sans haine, sans armes et sans faiblir, nos rêves sans cette terre n'ont pas fini de fleurir.
Atela Laguna Tela.
Nous avons marché, artisans de la paix. Nous avons osé, les armes déposées. Notre main est ouverte, ne la refusez pas. La paix vous est offerte, ne l'insultez pas.
Garestia da, bakea ez dago merke, ilusioa bihurtu da gure aterpe. Isildu dira lergaiak tiro hotxak, bakea berotu du gerlaren hotzak. Berdin dio zein zorotzak diren parekoen hortzak, bat egiten dutelarik arrazoiak da bihotzak taleenik. Bakearen artisautzan, herriaren iraultzan, ez dugu nahi baimenik ez da pausan. Hemen ez dago etenik, beraz ez pentsa bakea, borroka bat ez denik.
Atera Laguna Tera.
Nous avons marché, artisans de la paix.
Oinutxik gabe joan gira bidera.
Nous avons osé, les armes déposées.
Begietara begia.
Notre main est ouverte, ne la refusez pas.
Ikusten dugu gure zen gira.
La paix vous est offerte, ne l'insultez pas.
Atera Laguna Tera.
Nous
avons marché, artisans de la paix. Nous avons osé, les armes déposées. Notre main est ouverte, ne la refusez pas. La paix vous est offerte, ne l'insultez pas. Artisans.
Maintenant, pour vous parler des activités du groupe Dinois, ben, en cette période, bien sûr, elles sont réduites puisqu'on ne peut plus se réunir en présentiel. Donc, en fait, on communique beaucoup par mail et par vidéoconférence au niveau d'Amnesty France. Ensuite, ce qu'on a fait, par contre, c'est des interventions dans les lycées en décembre pour notre campagne « 10 jours pour signer ». Ainsi, au lycée Alexandra Davinel, les lycéens ont obtenu 706 signatures. Et au lycée Pierre-Gilles de Gênes, où il existe depuis plusieurs années une antenne jeune d'Amnesty, ils ont obtenu 1445 signatures. À peu près le double, un peu plus du double. Ils ont ainsi manifesté leur liberté d'opinion et en demandant la liberté pour Khaled Drareni, journaliste en Algérie, pour Peng Fio Min, poète au Myanmar, pour Nassima Al-Sada, défenseuse des droits des femmes en Arabie Saoudite, pour Germain Rukuki, défenseur des droits humains au Burundi, et pour Idriss Katak, chercheur d'Amnesty au Pakistan. Ils ont demandé également justice pour Gustavo Gatica, victime de violences policières au Chili, pour les défenseurs des droits des LGBT en Turquie, pour les trois jeunes migrants du pétrolier El Iblu, et pour Poppy et Bongeka, deux jeunes femmes victimes de féminicides en Afrique du Sud. Enfin, ils demandent la protection de la défenseure des droits humains Jani Silva en Colombie et de la médecin Tatiana Reva en Russie. Au lycée du Sacré-Cœur, cinq jeunes lycéens ont fait le tour des classes pour parler de 5 des 11 cas de la campagne « 10 jours pour signer ». D'Amnesty International, en incitant les lycéens à les signer en ligne pour ces victimes sur le site amnesty.fr. Voilà donc notre action au niveau des lycées. Hein. Et chaque fois, il y a eu des présentations d'Amnesty, de sa vision du monde et de ses actions. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, hein, l'éducation aux droits humains. On espère pouvoir faire le festival de films fin mars. On l'a... Normalement, c'est tout le mois de mars. Là, on le ferait partir du 20 mars au 18 avril, si il y a la possibilité au cinéma. Hein, il y aura avec des séances au cinéma, si jamais il rouvre. Mais on a sélectionné des courts-métrages et on va les proposer aux lycéens dans le cadre d'interventions scolaires en se rendant sur place, si c'est possible aussi. Voilà. Donc on va terminer en chanson par encore une chanteuse qui nous a quittés il y a pas longtemps, Anne Sylvestre, avec sa chanson Les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites choses.
s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Sans doute, mais la ville nous retient.